Restons courtois. Pierre-Alexandre Bouclet.
Oui, Pierre-Alexandre Bouclet dans Restons courtois, notre émission de débat, l'émission de débat de Radio Courtoisie en partenariat avec les amis de Boulevard Voltaire, de l'Incorrect, du Monde Moderne et de Valeurs Actuelles. Alors, on va passer à des sujets plus légers maintenant, parce que c'était passionnant, mais un peu angoissant, un peu dur à écouter. Voilà, donc on va parler de politiciens maintenant, donc autant dire qu'on va pouvoir rigoler un petit peu. On va commencer avec le 1er mai et les leçons à tirer des manifestations. Alors, je vous le disais en introduction, les personnalités et partis politiques ont célébré le 1er mai chacun à leur manière. Donc les organisations d'extrême gauche affirment avoir réuni près de 160 000 personnes dans toute la France, dont 100 000 à Paris selon eux. 24 000, c'est l'estimation du ministère de l'Intérieur. Et les manifestants ont plaidé pêle-mêle pour l'augmentation des salaires, le gel des prix de l'essence, et plus généralement pour plus de sous. Et donc évidemment, la question de 2027 était essentielle, et Jean-Luc Mélenchon en a profité pour déclarer sa candidature à la présidentielle dans la foulée de ce défilé. Ce qui est d'ailleurs rigolo, puisque c'est quand même l'exemple, ce monsieur qui appelle au grand remplacement de manière explicite, qui appelle à la nouvelle France faite de femmes, de métis ou d'étrangers, bah, pose quand même là encore une fois sa candidature de vieux mâle blanc cisgenre. Donc il y a peut-être une petite contradiction chez Mélenchon. Et Jean-Marie Le Pen, c'était avant. Marine Le Pen et Jordan Bardella se sont réunis, eux, à Mâcon, en Saône-et-Loire, et ils ont fait un discours qui était extrêmement social, d'ailleurs. Je dois avouer que ça m'a un peu étonné. On aurait cru le Parti communiste des années 80. C'est-à-dire, on taclait encore un peu l'immigration à l'époque chez les communistes. Voilà, donc, on a beaucoup attaqué Gabriel Attal, on a appelé, donc, vraiment essentiellement... On a abordé la question du travail, du pouvoir d'achat, la baisse du niveau scolaire également, et avec un slogan « Pour la France du travail ». Ce qui était quand même un peu étonnant, parce que j'avoue que c'est pas forcément le thème sur lequel on les attend le plus. Alors ils ont aussi évoqué la renaissance de la France, qui était quand même plus dans l'esprit de ce qu'on attend d'une fête... du Rassemblement National pour le 1er mai, qui ne s'appelle plus la fête de Jeanne d'Arc. Et la fête de Jeanne d'Arc, c'était Marion Maréchal qui l'organisait, donc à Domrémy, donc là, on a rendu un hommage à la sainte de la nation, en prenant exemple sur elle pour le redressement du pays, et où, pour la petite anecdote, elle s'est fait remarquer, donc Marion Maréchal, par Jérémy Patrier-Leitus, donc qui était l'ancien président de la commission parlementaire sur l'audiovisuel, parce qu'elle a chanté au 31 du mois d'août. Alors, je ne sais pas si vous connaissez au 31 du mois d'août.
Au 31 du mois d'août.
On vit venir sous le vent à nous. Une frégate d'Angleterre qui fendait la mer et les flots. C'était pour attaquer Bordeaux.
Aller à Bordeaux ou attaquer Bordeaux?
Pour attaquer Bordeaux. Bah oui, on va pas... c'est des Anglais, ils attaquent Bordeaux.
C'est vrai. Buvons un coup, buvons en deux, etc.
À la santé des amoureux.
Voilà.
Et merde au roi d'Angleterre.
Merde au roi d'Angleterre, voilà. Et donc, monsieur Patrier-Leitus, donc, il y a vu, de manière assez contre-intuitive, un chant monarchiste et anti-républicain. Et ah si, c'est vrai.
Il l'a dit.
Oui, oui. Oui. Mais donc, j'avoue que j'ai du mal à comprendre, d'autant que, si je ne me trompe pas, c'est un chant qui était entonné pendant les guerres de la Révolution. Le peu de temps où la marine républicaine française a existé avant Trafalgar. Voilà, donc je ne sais pas ce que vous en pensez. Et puis on a vu aussi donc Gabriel Attal, comme je le disais en introduction, fêter le 1er mai dans une boulangerie. Non, c'est sérieux aussi. Et donc c'était ça. Et voilà, donc encore une fois, est-ce que c'était pour le débat chocolatine pain au chocolat? Comme c'était à Vanves, j'imagine qu'il en tient pour le pain au chocolat. Mais c'était peut-être aussi pour regretter de ne pas avoir aboli cette loi stupide quand il était Premier ministre, parce que là, il explique le fait d'empêcher les fleuristes et les boulangers de travailler le 1er mai est une absurdité. Et il le fait avec vraiment beaucoup de vigueur, d'enthousiasme. Et on se dit quand même, c'est con, parce que s'il avait été Premier ministre, il aurait pu mettre fin à cette absurdité. Puis il ne l'a pas fait.
C'est bête. Bah,
c'est... c'est ballot.
Et il s'en est fallu d'un cheveu.
C'est ça. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez des leçons à tirer de ces manifestations du 1er mai, s'il y en a une qui vous inspire plus que les autres.
C'est pas très
Arthur de Vatrigan, c'est pas inspirant. Est-ce... Ah, Alexis c'est Poulain, ça vous inspire?
Non, mais c'était moi, quand même un giga si bazar.
Attends, Alexis Poulain est inspiré.
Ouais, inspiré. Sur les boulangeries, j'en ai parlé ce matin dans la revue de presse, parce qu'il n'y a pas que Gabriel Attal qui allait dans une boulangerie. Il y a eu Laurent Wauquiez quand même avec Sébastien Lecornu, qui sont aussi
chacun
allés
dans une boulangerie.
Non, les deux dans la même, ils étaient tous les deux ensemble. C'était une opération de com' montée par Wauquiez, plutôt, qui invitait sur ses terres Sébastien Lecornu pour montrer que voilà, ça bossait le 1er mai dans les boulangeries en Rhône-Alpes. Et la scène est lunaire parce qu'on a l'impression de petits extraterrestres qui découvrent hein, ce que c'est qu'une boulangerie, qui regardent partout autour, qui essayent de faire des blagues. C'est assez triste. Et on sent qu'il y avait vraiment une coordination finalement pour dire bon bah voilà on va en faire à une occasion de com, mais voilà vous avez vu ça inspire pas vraiment, et même quand on voit les images je pense que la com était totalement ratée, y compris pour Gabriel Attal après qui a été obligé d'appeler un boulanger qui a été sanctionné par l'inspection du travail, donc tout ça était vraiment inutile et superfétatoire, mais ça les occupe j'ai l'impression.
Bon,
et Sébastien Lecornu a soutenu un boulanger.
Ah ben ça c'est bien,
oui,
c'est
déjà voilà, ça. Dans le même cadre...
Mais on peut se demander lui aussi pourquoi il n'a pas fait sauter cette loi qu'il condamne.
Il a été
condamne.
Vivement critiqué par son administration.
Bah, tu m'étonnes.
Bah, voilà,
en même temps, ça n'a aucun sens.
Ah, ça n'a aucun sens, voilà.
Xavier Van Lierde, est-ce que vous êtes allé dans une boulangerie?
Non, j'avais pris mes précautions, mais en réalité, c'est tous les débats qui tournent autour du travail aujourd'hui me navrent, parce que, excusez-moi, j'ai l'impression qu'ils sont encore un peu marqués par des clivages complètement périmés désormais. C'est-à-dire qu'au même moment où on se demande s'il faudrait travailler plus ou moins sur les jours fériés, en même temps, quasiment en même temps aux États-Unis, on a l'entreprise Palantir qui nous explique qu'elle va prendre... de l'État américain avec l'intelligence artificielle, des milliers, des centaines ou des milliers d'étudiants indiens qui jouent aux robots à effectuer les tâches qui seront confiées aux robots plus tard, repasser le linge, réparer de la plomberie, le tout avec des tas de capteurs pour expliquer comment pour que ces données soient ensuite transférées aux robots pour qu'ils puissent reproduire les bons gestes. Enfin, voilà, j'ai l'impression d'une sorte de pièce de théâtre où on radote des vieilleries comme si on était encore entre Germinal, Proudhon. Voilà, ça m'a donné une impression de malaise, en fait. De malaise par le manque d'imagination et le côté extrêmement décalé. C'est-à-dire que l'enjeu, ça va être probablement plus tard, la place du travail dans la société, et pas de savoir 35 heures, 40 heures, jouer aux libéraux parce que je veux rouvrir le petit commerce de proximité, ou les fermer parce que je tiens aux grandes luttes du 19e et du... Voilà, tout ça, ouais, en fait, me rend un peu triste et inquiet. Voilà.
Oui. Oui, c'était très Poujade, Attal. Enfin, dans sa façon, hein, mais bon. Mais oui, c'est sûr qu'à l'ère où on se pose la question de savoir si le travail va même demeurer, se poser des questions là-dessus semble un peu stupide. Mais Arthur de Vatrigan.
C'est vrai que, vu comme ça, dit comme ça, Xavier a raison, on a des vieux ringards dépressifs en phase terminale, mais... Après, je me dis, d'un point de vue politique, peut-être qu'en fait, il s'adresse à l'électorat. Et l'électorat en France, il est ce qu'il est, malheureusement. C'est-à-dire, on est sur l'ancien jeune, qui n'est pas très intéressé par les questions d'intelligence artificielle, qui n'est plus concerné par l'évolution et les transformations du travail. Et donc, on leur parle avec des repères et des clivages qui étaient les leurs, à l'époque où j'étais actif, où ils entraient dans la vie active, et qui ne sont plus les leurs aujourd'hui, et surtout dont ils n'en ont strictement rien à faire. Malheureusement, je pense qu'on en est là aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on parle à ceux qui votent. Ceux qui votent se foutent de l'IA, se foutent de l'évolution du travail, et préfèrent rester dans leur vieille lune.
Donc c'est la démagogie finale, là, c'est plus la lutte finale. Oui. Alors néanmoins, on va quand même objectivement vers une situation de crise, notamment à travers ce que disait Xavier Van Lierde, mais de manière plus immédiate. Une crise économique se profile, oui. Et c'est sûrement aussi pour ça que ça inquiète.
On a même l'impression qu'on y est
qu'on
un peu.
Qu'on est dedans, oui. Non, je sais pas. Alexis Poulain, c'est un sujet...
nul au premier trimestre. Hein.
Ouais. Bah, oui. Ça va avec ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire que il y a les vieilles lunes, donc le travail le 1er mai, etc. Et puis on a l'impression que tout le reste, quand on est un responsable politique français, le monde n'existe pas. On est dans un déni total. C'est-à-dire que oui, que vous regardez les prévisions du FMI, de la Banque centrale européenne, de tous les banques d'investissement, etc. On est à peu près sûr que là, une crise économique de grande ampleur arrive, parce que visiblement l'Iran, les hostilités vont reprendre, ça va être assez long, enfin pas aussi court que prévu, donc il faut plutôt être dans les prévisions les pires plutôt que les prévisions médiocres, moyennes. Et là, rien n'est fait pour prévoir, donc évidemment on comprend que le gouvernement n'ait pas envie de baisser les taxes sur le pétrole maintenant, parce qu'il aurait grillé sa cartouche, mais l'inflation va ne faire qu'empirer, sur les produits alimentaires ensuite, et ce n'est que le début, c'est-à-dire qu'on aura 6 à 8 mois, 12 mois de crise qui vont être pendant la campagne en plus présidentielle. Donc on va vraiment avoir un état social assez particulier. Et dans la partie déni, c'est-à-dire qu'on parle d'ouvrir les boulangeries, Gabriel Attal parle de former des gens à l'IA, mais ils ne savent pas de quoi il parle, puisque vous avez quand même, et ça c'est la petite cerise sur le gâteau, hier, des hackers algériens qui ont expliqué qu'il y avait une énorme faille sur le site des impôts. Je ne sais pas si on va en parler, mais ça aussi, c'est drôle.
Alors, on peut en parler, tout à fait. Je ne sais pas, par contre, si c'est vrai ou pas vrai, parce que c'est... Je me suis demandé si ce n'est pas un coup d'influence d'un groupe de pirates
Ce qui est vrai, c'est qu'il y a des fuites.
C'est possible.
C'est que tous les systèmes informatiques de l'État présentent des failles de sécurité énormes. Et chaque semaine, on nous en révèle une.
Oui, c'est vrai. D'ailleurs, j'ai fait un compte hier en préparant ce sujet sur les pirates, enfin, sur les fuites informatiques. C'est hallucinant. C'est-à-dire que
hallucinant.
Toutes les semaines, effectivement, et on voit toute une liste de fuites. On dirait des tuyaux percés, on dirait une espèce de plomberie complètement percée avec des. Et on arrive avec des bassines, avec des seaux et des rustines. Et les fuites de l'administration française sont effectivement dramatiques.
Et une dramatique. Administration française qui veut nous obliger à mettre encore plus de données personnelles dans ces tuyaux percés.
Ah, bah oui, parce que il faut que ça coule AG continue. Xavier Van Lierde.
C'est dingue. Oui, je voulais rebondir sur ce que vous disiez. Si j'ai vu passer le chiffre de 250 organismes d'État ayant été victimes de fuites de données. 250.
Oui, la semaine dernière, on a fait tout un sujet sur ça d'ailleurs, hein, sur l'agence des titres de sécurité, qui a été avec 11 millions de comptes piratés, ce qui est quand même démentiel. Et là, encore une fois, avec cette situation extrêmement grave, que c'est pas le tout de se faire voler des coordonnées. C'est qu'ensuite, ça peut être utilisé contre vous. Et c'est d'ailleurs Alexis Poulain qui proposait qu'on porte plainte contre l'État pour l'ensemble des fraudes, parce que l'intelligence artificielle va servir également à faire des fraudes de plus en plus élaborées. Et si on est capable de pirater votre carte d'identité, votre permis de conduire, votre carte vitale, enfin tout, en fait, on peut faire des fraudes en votre nom. Et lorsque ce sera fait, c'est vous qui serez responsable et pas le gouvernement qui a laissé vos données se faire pirater. C'est incroyable ce qui est en train de se passer. C'est réellement incroyable. Et ce n'est pas un hasard si les pirates s'intéressent aux données de l'administration. Parce que c'est finalement le meilleur butin pour faire des escroqueries qui seront de plus en plus performantes.
Ça se revend cher.
Oui.
Mais c'est fou, on est devenu une passoire, en fait. Regardez,
c'est bien résumé, Arthur de Vatrigan.
Vous avez le tiers-monde qui rentre et vous avez l'argent et les données qui fuitent. Quoi. C'est fascinant. Hein.
C'est ça,
On a un gruyère géant. Quoi.
Oui.
Alors, on m'a dit ce matin qu'il n'y avait pas de trou dans le gruyère.
Mais c'est les mentales. C'est les mentales avec les trous.
Oui, c'est vrai. Oui, bon.
Parce que j'ai fait la même. Mais
c'est vérifiable, ça.
Oh, je pense que oui, le gruyère.
Tu ne me fais pas confiance sur le fromage.
Non.
Non, le gruyère est un fromage à pâte.
Bon, écoutez, puisque c'est comme ça.
Au revoir, Richard.
Oui,
mais bon, c'est absolument dramatique, puisque en réalité.
Ouais.
Non, mais c'est quand même très bon, le gruyère. Hein.
Oui,
revenons au vrai sujet.
C'est meilleur que les mentales. Mais je préfère le compter, moi.
Oui, moi aussi.
Je préfère le salaire, mais voilà.
Ne désespérez pas, Xavier.
Ce qu'il y a, je voudrais revenir sur ce que vous disiez, Arthur, et qui était étonnamment intelligent, sur le fait que les gens sont en train de nous gouverner avec de vieux logiciels,
en train de prétendre qu'on va former les gens à l'IA, même ceux qui sont en train de faire l'IA ne savent pas comment ça marche, donc on imagine bien des formateurs recrutés avec l'équivalent d'un emploi jeune en train d'expliquer à quelqu'un qui ne sait pas écrire, ni parler, ni lire comment utiliser une IA déjà obsolète, surtout si elle est française.
Comme les agents de Pôle emploi ou France Travail qui vous aident à retrouver un boulot.
C'est ça, et qui vous explique que vous ne rentrez pas dans les cases et qu'il faut aller généralement à l'agence de France Job qui est beaucoup plus loin quoi. Et on a aujourd'hui des vraies thématiques, la robotique, voilà, les Chinois sont en train de robotiser à outrance leurs usines. Alors vous me direz, on n'a plus d'usines en France, ça tombe bien.
On est réglé.
On est en train de parler de revenus universels, et donc là brusquement cette thématique qui était chère à la gauche a totalement disparu, mais il y a de moins en moins de travail, de moins en moins de possibilités de travail, une intelligence artificielle qui va phagocyter l'intégralité des emplois du tertiaire, une industrie donc qui n'existe plus et une agriculture qui est mourante. Donc effectivement,
l'industrie existe mais pas son
enfin pas en France, mais voilà.
Pas son autre, oui, mais il y a beaucoup d'industriels français. Il y a beaucoup de français qui sont à la tête d'industrie, mais pas sur le sol français en effet.
Oui oui, effectivement.
Ouais, mais ça serait, imagine, on pourrait avoir rien en France et puis pas un cerveau industriel non plus quoi. Mm. Ce qui est pas le cas.
Enfin, là, on a des cerveaux industriels qui font fabriquer ailleurs.
Oui,
en fait.
Mais qui sont bien mieux lotis que les Allemands, par exemple, qui ont eu encore des usines, mais n'ont plus de cerveaux. Donc, c'est quand même plus facile à créer dans ce sens-là. Mais parce qu'on a des vieux logiciels, parce qu'on a des vieux électeurs, encore une fois. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé. Peut-être la révolution industrielle, encore, je ne suis même pas certain. Qu'on est à une période où il est impossible de savoir ce que vont faire nos enfants, nous, 3, 4, 5 ans. Par exemple, moi, je suis en train de réfléchir avec mes enfants qui vont rentrer dans des études supérieures.
Ah, ça,
je
c'est
suis
vrai.
Infoutu de leur dire vers quelle filière ils doivent aller.
Sociologie.
Vers quelle, alors surtout pas Tolbiac, c'est ça on sait, vers quelles études ils peuvent s'engager ou vers quel travail. Parce que ça va être dans 5 ans, peut-être même moins, la moitié ou peut-être plus des boulons auront disparu. D'autres se sont créés, d'autres se sont transformés. Et on est peut-être la première fois, on ne sait pas ce qui va se passer dans 5 ans. C'est fascinant et vertigineux en même temps.
Oui, d'ailleurs, tout le monde se tait autour du plateau.
Mais si je pouvais avoir des conseils, ça m'arrangerait. Quoi.
Xavier Van Leerd, vous lui avez la main.
Je ne pouvais simplement qu'approuver. J'ai moi aussi des enfants, je suis confronté au même problème. Si
bah oui, on en est tous là.
j'en ai même un qui...
À chaque fois que je pose la question à un professionnel d'une des filières ou d'un des métiers souhaités par mes enfants, c'est très simple, la personne me dit bah, « surtout pas, on va être remplacé d'ici peu ».
Voilà. Alexis Poulain.
C'est tellement tragique que moi j'ai même un de mes enfants qui est en train d'étudier dans le domaine de l'IA hein, de manière très sérieuse, qui dit ça va tellement vite que bon là le mieux c'est que je fasse un doctorat éventuellement pour essayer de voir où ça peut aller, mais même ce qui était autrefois le code ou l'ingénierie, ça va tellement vite que même eux en tant qu'étudiants là commencent à voir que ça va trop vite pour eux, et donc il faut trouver un moyen ou un autre pour évidemment faire son chemin encore dans cette révolution IA qui va être une catastrophe hein, sur le domaine de... Enfin, pour de nombreuses professions, du moins. Donc, ça, c'est un vrai sujet. Et encore une fois, gros déni des politiques.
Hein, puisque... C'est ce que j'allais dire, Alexis Poulain. Comment expliquer, là, ce qu'on vient de dire comme ça, rapidement, autour d'un coin de table, que pas un seul des grands partis ou des grands candidats n'ait soulevé le problème?
Ils voulaient qu'ils s'adressent à qui? Vous avez la majorité de l'électorat, c'est des retraités. Vous parlez d'IA, les types, ils vont même pas comprendre. Et ils s'en foutent. Non, mais c'est une réalité, c'est vrai, malheureusement. Ils s'en foutent complètement. Vrai. Vous allez voir Bardella, il est fasciné par le sujet. Vous allez dans son bureau, il a que les trucs d'IA et compagnie, il est fasciné. Il est fasciné dangereusement parce que attiré par ça. Mais il n'en parlera pas. Ouais. Il en parle, son électorat se barre. Ils vont même pas comprendre. Déjà, qu'est-ce qu'on s'en fout parce que dans 10 ans, on sera plus là. Ou alors, si on le voit d'une manière positive, c'est on va peut-être survivre un peu plus davantage parce qu'on va nous soigner. Mais c'est tout. L'IA, c'est pas un sujet. Ouais. Notre l'électorat français.
C'est pas tellement l'IA que le bouleversement d'une société. Parce
ils s'en foutent. Ils sont pas concernés.
Alors, du coup, on se retrouve quand même dans une situation complètement dingue où, par exemple, on continue de nous expliquer qu'il faut maintenir des flux d'immigration pour faire les boulots dont les Français ne veulent pas, au moment même.
Dont les robots ne veulent pas.
Où d'autres pays du monde se demandent comment on va maintenir de l'emploi avec la robotique. Oui. Enfin, c'est complètement hallucinant.
En vrai, on vit, je pense, un moment extraordinaire, historiquement. On n'en prend pas la mesure, mais c'est vrai que là, il y a un changement de société radical. aucune façon de le préparer. Alors si, du côté de Palantir, du côté militaire, on va dire que c'est très préparé. Du côté industriel aussi, d'une certaine façon. Du côté des sociétés du tertiaire que sont devenues les sociétés européennes, hein, occidentales, je crois qu'on ne se rend pas compte des ravages que vont faire l'IA, dans le tertiaire notamment. Et ça, c'est... Alors, il y avait Benoît Hamon qui avait fait, je ne sais pas, 2%, mais qui avait sorti un truc justement sur la taxe robot qui commençait déjà à réfléchir. Il y a cette fausse idée du revenu universel pour dire bon, on va payer les gens à rien foutre. Bon, j'imagine que ça se passera pas comme ça. Et puis après, il y a le retour à une société éclatée en fait de microservices et puis les tâches que les robots ne pourront pas faire ou ne seront pas assez évolués pour faire.
Oui, mais même ça, pardonnez-moi, d'une part, la robotisation est effectivement en marche dans tous les milieux industriels, mais chaque fois qu'on nous parle d'un robot français, alors c'est un robot relationnel qui est capable d'accompagner les vieillards, c'est un robot relationnel qui est capable d'accueillir les gens dans les espaces, ce sont des cuisiniers, on est sans parler, là je vous parle de robots vaguement humanoïdes, sans parler de l'aspirateur qui ressemble à une soucoupe volante au ras de la moquette, il y a même des robots agricoles voilà, qui sont en train effectivement dans une profession où il y a de moins en moins de gens et des exploitations de plus en plus grandes, ben de remplir la tâche que les brassiers ne peuvent plus remplir puisqu'ils n'existent plus. Donc, la taxe robot de Benoît Hamon consistait à dire, très bien, il y a une nouvelle force de travail, comme les gens n'ont plus de revenus, qu'on ne peut plus avoir de l'impôt sur le revenu, on va taxer une fois plus la machine-outil. Mais très bien, taxer pourquoi ? Pour faire marcher, pour payer l'intelligence artificielle qui est censée remplacer le ministre des Finances. Enfin, c'est dantesque.
Non, parce qu'ils ont rejeté toujours de taxer. Donc ils veulent taxer, ils savent pas pourquoi, ils s'en foutent de à quoi sert la taxe. Ça n'a jamais été dans le logiciel,
ces gens-là. Ça, oui, c'est pas le sujet.
Donc ils veulent taxer, c'est tout.
Dans tout ça, il y a le problème de maintien des équilibres économiques et de la capacité à chacun à avoir des revenus pour subvenir à ses besoins. Mais en réalité, comme le travail figure au cœur de notre pacte social et même de chaque fierté individuelle, les gens se construisent autour du travail aujourd'hui depuis des siècles dans notre civilisation. C'est-à-dire que même la fierté du père de famille est de subvenir aux besoins de parvenir à subvenir aux besoins de sa famille. On va être dans un monde où les revenus sont simplement des revenus de subsistance donnés, il y a une part d'humiliation et une nécessité de réinvention qui est complètement vertigineuse.
Je plus sois ce que vous dites, Xavier Van Liert, parce qu'on parlait de à quelle époque on aurait pu voir ce genre de choses. On a eu un tout petit aperçu, mais honnêtement, c'est microscopique par rapport à la déferlante qui se met en place de nos jours, mais avec la chute de l'Empire romain, qui a quand même, pour une des causes, alors qui sont évidemment nombreuses, mais une des causes, c'est vraiment le fait que les citoyens romains ne travaillaient plus et vivaient entourés d'esclaves dans la plus grande, paresse, c'est peut-être pas le bon mot, mais...
Indolence,
oui, voilà. C'est un vrai facteur de la décadence romaine qui fait qu'à un moment, d'ailleurs, il n'y avait plus de Romains dans l'armée romaine. C'était dirigé par encadré par des étrangers. Mmh. Et le fait de ne plus rien faire, de vivre comme ça, alimenté par des armées d'esclaves, eh bien, l'esclave, à l'époque, la main-d'œuvre servile, remplaçait la technologie qui débarque sur... Enfin, on ne parle même plus de technologie avec ce qui nous arrive, mais c'est un peu le même état d'esprit, oui. Et donc, grosso modo, ça n'annonce rien de bon. Mais Arthur de Vatrigan.
Xavier est juste, mais c'est...
Dans les couches, des conneries.
C'est quand même pas très récent, et je sais pas si c'est négatif que ça. C'est vrai que pour la première fois, le travail n'est plus au centre de notre construction de vie humaine. Bon, moi, que le travail soit plus le centre de tout, ça me va, étant donné qu'avant, c'était le centre de tout et qu'il fallait tout gouverner, quoi, on construisait tout autour de ça.
Ça dépend quel travail.
Tous, après, il y en a qui vous plaisaient, ou c'était votre vocation et votre passion, donc c'est sympathique, mais la plupart des gens, c'était pour subvenir à leurs besoins, donc c'était pas forcément... ils étaient pas super contents, ils se levaient pas au champagne pour aller bosser. Donc, c'est pas forcément que négatif. Ensuite, évidemment que si le travail n'est plus au centre, c'est parce que la valeur travail a chuté, parce que le travail ne paye plus. Donc, à partir du moment où le travail ne paye plus, bah forcément, vous changez de paradigme et vous réfléchissez pas de la même manière vous disiez, bah, je vais construire autre chose, je vais profiter de ma vie de famille, je vais profiter de mes enfants, je vais, voilà. Et puis il y en a qui vont dire, je me rends fait, je vais rien foutre, et le droit à la paresse, évidemment. Donc ça, c'est vrai que c'est une vraie mutation, il y a un vrai changement, mais qui n'est pas forcément que négatif.
C'est vrai.
La génération de mes parents et de mes grands-parents, non, c'était le boulot à plein temps, quitte à jouer. Et puis le père voyait pas ses enfants, il faisait que bosser. Et puis il était content parce qu'il en effet, il rapportait l'oseille à la maison, il offrait une belle vie à ses enfants, des études, une résidence secondaire, mais sauf qu'il voyait pas ses enfants. Bon, moi en tant que père, en fait, ça me saoule, quoi. Je m'en fous qu'ils croquent, qu'ils aillent à Saint-Trope ou qu'ils habitent dans 120 mètres carrés. Non, bah, 50 mètres carrés ensemble, c'est très bien. Dans une cage à lapin, on est content, on se voit.
Oui. Et ensuite, on vous retire vos enfants, comme on le voyait tout à l'heure,
s'ils portent plainte eux-mêmes.
Non, moi, je plus sois hein, tout à fait d'accord avec Arthur. Le travail était exagérément au centre de nos vies. Je dis exagérément parce que je pense que dans certaines périodes, il était quand même. Il y avait certes le travail dans son aspect monétaire, c'est-à-dire qui permettait de subvenir à ses besoins, mais il y avait aussi quand même, c'était contrebalancé par des prestiges. Voilà. Et puis ensuite, petit à petit, les prestiges se sont effondrés, il ne restait plus que le fric. Voilà. Et la hiérarchie sociale était en réalité plus organisée autour du fric et des revenus que réellement du travail. Alors ça, c'était catastrophique. Cela dit, l'intelligence artificielle, à mon avis, va bouleverser davantage que simplement le travail. C'est-à-dire que même... Même les loisirs, même l'art...
Même la culture et l'intelligence.
La culture et l'intelligence, voilà. Alors, je prends juste un exemple. Un exemple qui m'est personnel. Lorsqu'il y a eu les premiers logiciels d'intelligence artificielle qui permettaient de faire des dessins, pour des raisons de curiosité professionnelle et d'inquiétude, j'ai demandé à ces intelligences de me générer une série de dessins que j'ai imprimés sur mon imprimante. De façon très imprudente, je les ai laissés sur mon bureau. Ma fille, qui avait alors environ 12 ans, a pénétré dans le bureau, a vu ses dessins, et j'ai vu son visage se décomposer, parce qu'elle a compris qu'en réalité, ses dessins avaient été faits par une machine, et sa première réaction, encore triste d'y repenser, était « Mais alors, ça ne sert plus à rien que je te fasse des dessins, papa. »
Et voilà. Mmh. Et bravo, Xavier.
Au-delà du travail.
Père indigne.
Non, mais vous voyez.
Oui, bah, évidemment, oui.
C'est-à-dire que l'obsolescence de l'homme et le sentiment de honte de voir une machine faire mieux que nous, dont parlait Günther Anders, venait de se matérialiser sous mes yeux sur quelque chose qui était de l'ordre de l'agrément de la vie de famille, de tout ce qui fait que c'est sympa d'avoir des enfants qui vous offrent des dessins et de les accrocher sur le frigo. Voilà.
Bien sûr,
ils
sont moches, alors, cela dit, ça veut dire du bien. Mais c'est encore mieux quand c'est moche. Mais cela dit, on l'a tous vécu dans notre propre environnement professionnel. Enfin... sauf si je suis vraiment le plus nul d'entre nous, mais à un moment, on peut demander une tâche à une intelligence artificielle et on se dit « Waouh, c'est quand même mieux fait que ce que je pourrais faire et 1000 ou 2000 fois plus vite, pour de vrai. »
Ça, c'est la performance. Donc après, il y a être performant, c'est aussi le... Malheureusement, ça fait partie du boulot. La question est toujours à la limite. Mais ce que disait Xavier, c'est vrai que dans la culture, c'est en fait, on va voir quelque chose qu'on n'a jamais connu et qu'on voit, qui a commencé le virage après avec la télévision, puis après avec les plateformes et maintenant l'IA, c'est on va plus avoir de commun. Parce que si vous prenez la culture, le principe de la culture au sens large, et on va prendre l'art le plus populaire qui est le cinéma, il y avait une unité, il y avait un commun, on se retrouvait au cinéma et on partageait les mêmes rêves, les mêmes émotions, on désirait les mêmes choses, et puis il y avait des gens qui incarnaient ça, il y avait des figures qui incarnaient ça. Avec la télévision, bon, bah, ça a un peu éliminé le côté salles obscures, et avec la plateforme, les SVOD, on s'est retrouvé encore plus chez nous, avec une inversion totale de business model, de modèle.
C'est le modèle économique.
L'algorithme, c'est t'aimes quelque chose et je vais te donner encore plus, mais uniquement ce que t'aimes. Alors que le principe du cinéma, c'était de sortir, il y avait un principe de curiosité.
De diversifier.
Et là, avec l'IA, ce qu'il va y avoir, c'est qu'on va aller dans la personnalisation des choses. C'est-à-dire que les gens, non seulement vont rester dans leur salon, mais vont plus rien partager avec les autres parce qu'ils vont eux-mêmes créer, avec leurs IA, leurs propres loisirs. Donc il n'y a plus de commun. Donc s'il n'y a plus de commun, il n'y a plus de société. Et surtout, et après, derrière, il n'y a plus d'émerveillement. Parce que sur l'art, ce qu'on recherche tous, et surtout quand on est enfant, c'est l'effet waouh, c'est comment il a fait ça. Et avec l'IA, il n'y a plus d'effet waouh, il n'y a plus d'émerveillement.
Et il y a surtout une banalisation, parce que pour en revenir au cinéma que vous preniez en exemple, on a déjà eu la grève des scénaristes à Hollywood,
2023.
Parce qu'on n'a plus besoin d'eux pour écrire des histoires. Non pas que les histoires soient supérieures, voilà, c'est ça. En fait, les histoires sont standardisées,
exactement,
correspondent à des algorithmes, mais à des besoins.
C'est la Netflixisation de la société.
Oui.
C'est
affreux. Et on a également maintenant des acteurs et des actrices qui ne sont plus des vraies personnes. Et ça,
des doubleurs. Mais encore une fois, on est sur on est plus sur l'art et de la culture, on est sur la consommation à grande vitesse. Mmh. L'exemple, c'est Netflix qui fait lecture x1.5 ou x2. Vous n'êtes pas là pour regarder, vous êtes là pour consommer. Et après, on vous dit, bah, y a encore 3 ou 4 films ou 3 ou 4 séries qui sont dans le genre que t'aimes, que tu vas regarder. Mais on oublie déjà. Mais le drame, c'est que non seulement on devient complètement idiot et inculte, mais surtout, on n'a plus de commun. Chacun est dans sa baraque ou dans son petit écran, et même dans votre maison, entre votre tablette, votre téléphone ou votre télé, bah, vous pouvez être 3 ou 4 et vous n'allez pas regarder les mêmes choses. Mais ouais. le drame dans tout ça, c'est le commun qu'on flingue.
Ça fait penser, pour rester dans l'image cinématographique, un dessin animé qui est sorti il y a une dizaine d'années, je crois peut-être même 15, qui s'appelait Wall-E.
Wall-E, bien sûr.
Je ne sais pas si vous connaissez autour de la table, ou pour les auditeurs Radio Courtoisie, c'est un petit dessin animé.
C'est un excellent dessin animé de Pixar.
C'est un très bon dessin animé, oui. Sur un petit robot ménager, si je puis dire, dont le travail est de trier des déchets et de les compacter, et qui se retrouve isolé sur sa petite planète, et qui se retrouve à un moment confronté à des humains qui vivent comme des masses obèses, connectées à un tuyau, littéralement, qui les alimente, aussi bien en information qu'en nourriture, qu'en tout. C'est épouvantable. C'était assez angoissant, et malheureusement, c'est peut-être un destin qui menace certains d'entre nous. Sauf à résister, oui, évidemment.
Mais pardonnez-moi, mais je voudrais...
Le défilé du 1er mai, oui.
Ah oui, le défilé du 1er mai.
Non, allez-y, d'accord. Non. Mais non, mais parce qu'on vient d'avoir une discussion intéressante auquel aucun des politiques n'a pensé.
Parce qu'il y a quelque chose qui est fascinant dans cette disparition du commun, c'est qu'en fait, on est en train de recréer un autre commun qui n'est pas le vôtre, intellectuel parisien, épris de culture, de livres et de grands films. On sent la classe qui parle, vous me pardonnerez, Arthur de Vatrigan, vous accusez. Par exemple, Jérôme Fourquet nous parlait de ces 3 millions de licenciés de musique country en France. Voilà. Quand on sort de Paris, le nombre d'associations qui se montent refaire son jardin, réparer l'outil cassé, etc. Les gens en fait sont en train de revenir. En fait, pour ceux qui ne sont pas effectivement avec le cerveau phagocyté par la télé, c'est-à-dire qui ont un accès raisonnable à d'autres plaisirs comme celui de cultiver son jardin, même minuscule.
C'est-à-dire peu de monde en fait.
C'est-à-dire en fait 80% des Français, si on regarde le nombre de personnes qui n'habitent pas dans les métropoles, on est en train de redécouvrir en fait un monde où le travail ne signifie pas uniquement le travail salarié, mais aussi le fait d'agrémenter son lieu de vie, le fait de réparer sa maison, le fait en fait d'avoir une activité familiale, communautaire, villageoise. Et ça, l'IA, effectivement, ne sera pas capable de se substituer à ce genre de choses. Donc, pour ceux qui ne sont pas coincés dans les villes-mondes que vantaient Anne Hidalgo et le maire de New York, il y a bien un avenir qui se dessine et qui n'est pas cet avenir abominable de gens embarqués dans une croisière spatiale de luxe et gavés de force. Heureusement, le film se termine bien. Ils réapprennent à planter des laitues, si je ne m'abuse.
Oui, il y a une petite fleur qui pousse avec son amoureuse robotique. Xavier Van Lierde, ensuite on parlera du rapport à l'oncle quand même.
Xavier. Oui, je suis d'accord avec Richard. Il y a probablement, si notre anthropologie a un minimum de résilience, et si la nature humaine existe, il est probable qu'il y ait quand même un mouvement de retour à ce qui est vrai, ce qui est incarné, ce qui a des odeurs, au vrai contact humain. Autour de la réflexion sur le cinéma avec les acteurs qui disparaissent, qui vont être petit à petit remplacés par des hologrammes et des créations de numérique, il est possible qu'en retour, je me demande si en retour il pourrait pas y avoir un regain d'intérêt et un retour de flamme pour le spectacle vivant, pour le théâtre, pour pouvoir retrouver un petit peu d'authenticité. Il faut le souhaiter en tout cas. Et on en constate peut-être déjà les prémices. J'ai vu les polémiques qu'il y avait autour des banquets du Canon français. Comme je réfléchissais beaucoup à l'IA en même temps, et j'ai un peu débattu avec des gens sur Twitter à ce sujet, avec des gens de gauche qui critiquaient ces banquets. En fait, on décrivait cette génération comme scotchée à ses écrans, n'ayant plus que des communautés virtuelles et autres. Et en fait, dès qu'on leur donne l'occasion, une occasion de se retrouver, de chanter, de danser, de ripailler, de mettre des doigts gras sur du saucisson ou des morceaux de jambon qui ne sont pas moins, l'occasion est saisie. Donc, tout n'est probablement tout n'est probablement pas joué. Et l'autre réflexion la plus politique, je me suis demandé si dans une ère où les partis politiques ne font plus de manifestations, ou très peu, où ils sont de moins en moins une occasion de se socialiser, de se faire des amis, de faire des rencontres, puisque ils investissent à fond sur... Enfin, ils investissent davantage les réseaux sociaux que la rue, eh bien, si le banquet français ne venait pas aussi combler, pour une part, ce manque-là, c'est-à-dire le commun, il était là, en réalité. Et alors, si j'étais un dirigeant de parti politique, si j'avais la possibilité, eh bien, je ferais en sorte que ce parti devienne une véritable communauté, soit un endroit où on puisse rencontrer sa petite amie, son petit ami, se faire des relations, des copains, vivre dans la vraie vie, et construire, du coup, une véritable contre-société, non seulement contre des institutions complètement dégueulasses, mais peut-être aussi contre ce monde artificiel, numérique, désincarné. Voilà. Ça nous mène un peu loin, mais...
Non, mais c'est quoi, quelque chose. Vous aviez raison, c'est quand même assez étonnant de voir que... Parce qu'on parle du canon français, mais on pourrait parler de la vague gueuleton, tout ce qui concerne la restauration, les traiteurs, on peut parler des créateurs de contenu qui font sur la bonne bouffe, le terroir et tout, mais c'est quand même fascinant de voir que ce sont des start-upers qui recréent, qui font du business sur un truc ancien... qui étaient en fait des fêtes de village, quoi. Donc ça veut dire que si ça marche, c'est-à-dire qu'en effet qu'il y a un manque, mais malheureusement quand on regarde cette génération, c'est pas des gamins de 15 ans, c'est pas des gamins de 14 ans, c'est pas des gamins de 10 ans, et malheureusement la génération de 5-12 ans qui nous arrive dans la tronche fait assez peur en fait.
À voir, ils peuvent avoir envie d'être ensemble quand même.
Il faut d'abord découvrir le ensemble.
Mais il faut, oui,
on voit leur consommation d'écran.
Ah oui, ça c'est vrai.
C'est,
oui. Mais à la limite, on peut.
Il faut leur en désintox. Hein.
Oui, mais si vous mettez deux enfants ensemble, voire trois ou quatre, d'un seul coup, ils oublient les téléphones. Ça, je.
S'ils ont appris à jouer, s'ils ont appris à communiquer. Oui. Bah oui, mais il y en a qui n'ont jamais appris à communiquer. Pas,
hein. Alors, on a un auditeur.
Il y avait une étude. Il y a eu une. Alors là, pour le coup, je renvoie une chronique que j'avais faite dans une des matinales, mais une étude américaine qui est sortie l'été dernier et qui était extrêmement intéressante, puisqu'elle prenait la forme d'une enquête, d'un sondage auprès d'enfants auxquels, de cette génération-là, justement, hein, donc des super, comment on dit, digital natives en français.
Oui. Enfin, des ceux qui sont nés avec le numérique.
Nés avec le numérique, un iPhone.
Les natifs numériques.
Voilà, dans la main.
Les neuneux.
Dans leur main.
Pardon.
aussitôt la naissance et jusque dès la poussette, et lorsqu'on leur donnait la possibilité, on leur demandait quelles étaient les activités qu'ils préféraient. Est-ce que c'était regarder un film, avoir accès à leur tablette, ou plutôt aller jouer à l'extérieur, construire une cabane et autres et autres et autres. Dans leur immense majorité, mais c'était presque la totalité, eh bien, ils préféraient aller jouer dehors, avoir des activités physiques, sportives, et fait encore plus intéressant, les activités qui leur plaisaient le plus, celles qu'ils souhaitaient, qu'ils désiraient le plus, c'était les activités avec de l'imprévu. C'est-à-dire retrouver les copains dehors sans savoir ce qu'ils allaient faire.
Sans algorithme.
Autant le faire. Donc,
c'est rassurant. Ouais.
Tout n'est pas joué.
Alors, non. On va lire quelques messages d'auditeurs qui s'accumulent. Il y en a un notamment qui nous dit « L'ennui du désœuvrement et le sentiment d'inutilité peuvent-ils se soigner autrement que par le conflit et la guerre ? La production robotique impose-t-elle la guerre pour faire tourner une économie folle ? » Eh bien, cher monsieur, non. Parce que, figurez-vous que la guerre se robotise aussi, et là, franchement, quand on voit déjà les conséquences de la guerre en Ukraine avec l'usage des drones, et aujourd'hui, de plus en plus, la miniaturisation des drones, de plus en plus performants, de plus en plus agiles, de plus en plus meurtriers, on peut imaginer qu'on aura bientôt plus besoin de beaucoup d'humains pour faire la guerre. Donc, ça va. Même la guerre va nous échapper. Voilà, tout fout le camp.
Ouais, mais nous, on s'en fout parce qu'on a un gros porte-avions. Notre nouvelle ligne Maginot.
Voilà, absolument. À cause de l'intelligence artificielle, les professions intellectuelles vont comprendre ce qui est arrivé aux artisans, c'est-à-dire une inutilité des compétences. Un mécanicien automobile est devenu un simple changeur de pièces, un plâtrier est devenu un vulgaire plaquiste, un paysan n'est plus qu'un conducteur d'engin. Le progrès fait perdre à l'humain l'intérêt d'acquérir des compétences.
Ouais. Et un journaliste, je vous en parle pas.
Ben, non, sauf ce ligne droite.
C'est vrai.
Voilà. En fait, le vrai problème de l'intelligence artificielle pour l'homme, c'est qu'elle peut amplifier notre pouvoir beaucoup plus vite que notre sagesse ne progresse. Le risque à moyen long terme, c'est de perdre progressivement le contrôle sur des systèmes devenus trop complexes et autonomes, au point qu'ils orientent nos décisions et nos sociétés à notre place.
Mais ce qui est intéressant là-dessus, oui, c'est qu'on voit, parce que ça fait penser à toute la littérature de science-fiction, alors 19e, début 20e. Et en fait, si on se replonge dedans, jusqu'à même à l'année 90, on va dire, en fait, c'est quelque chose qui était optimiste. Et dedans, beaucoup de gens voient avec l'apparition de l'homme augmenté ou la robotique, en fait, un truc optimiste en disant l'homme va peut-être un peu disparaître, mais comme l'homme est tellement incorrigible et tellement nul, c'est pas si mal que ça. Et en fait, on retrouve ça dans toute la littérature science-fiction des 19e, 20e. C'était optimiste et positif. C'était pour nous améliorer.
Oui. Là, c'est raté. Il y a, Philippe Kadic qui avait été moins positif. Mais c'est déjà...
Oui. Mais
Wells...
Oui.
Wells parle de... Il y a une nouvelle de Wells où l'humanité disparaît, mais c'est pas grave. Toutes les machines qu'il avait créées continuent à fonctionner dans le vide comme ça.
Et elles sont plus tranquilles sans nous. est-ce qu'il y a d'autres...
Oui, bien sûr. C'est absolument pour rien.
On verra des robots comme au Japon qui tourneront la pelouse, parce qu'ils ont, comme ils n'ont plus d'enfants, ils vont disparaître. Mais ils tourneront la pelouse et puis passeront l'aspirateur.
Il y avait une nouvelle de Ray...
Wall-E sans les humains.
Il y avait une nouvelle de Ray Bradbury comme ça qui était très jolie, sur une maison entièrement robotisée qui continue à fonctionner en l'absence totale de ses habitants qui avaient été atomisés par la guerre.
Voilà. Allez, on lit quelques messages, après il faut quand même dire un mot des
autres. À laquelle je faisais référence, donc c'est Bradbury, c'est pas Wells.
C'est Bradbury, oui.
Ah d'accord, bah, bon.
Mais c'est très bien aussi. J'écoute avec plaisir, comme toujours. Merci pour le souci du vrai travail qui soit encore nécessaire à l'avenir malgré l'intelligence artificielle. N'est-ce pas l'occasion de revenir à la qualité dans le monde de l'agriculture, de l'élevage, de l'artisanat et de l'art en général qu'il faut investir ?
On peut essayer, en tout cas. Oui. En tout cas, ce qui est sûr, voilà, c'est que l'intelligence artificielle ne remplacera pas nos bêtises naturelles, puisque ça fait quand même trois quarts d'heure qu'on parle d'un sujet qui est totalement hors programme, mais c'est pas grave, on s'amuse.
C'est possible, elle peut créer de la bêtise, évidemment. Vous avez pas vu sur l'échec.
Mais pas la nôtre, monsieur.
Si.
Bon, allez, il faut... Encore, il y en a plein.
Voilà. Allez. Est-il normal que l'application du ministère des Finances qui permet de faire des saisies sur les comptes bancaires soit piratée, nom, prénom, date de naissance, etc. Et que les références bancaires soient parties dans la nature à cause d'un agent de Bercy négligent? Croyez-vous vraiment à cette histoire?
Oh ben hélas, oui. Mais par contre, faites comme Alexis Poulain le recommandait, portez plainte. Il y a vraiment des choses à faire. Ouais. Là.
Les fuites de l'administration devraient entraîner des mises en examen des responsables, justement, et de ceux qui ont décidé l'extension de la numérisation sans garantir la sécurité des données. C'est une simple question d'égalité dans la loi. Il faut se souvenir que nombre de sociétés et de dirigeants ont été condamnés dans un passé récent pour de simples insuffisances dans les mesures de protection et le plus souvent condamnés plus sévèrement que des intrusions volontaires.
Ah oui, bah, je peux vous dire qu'un petit contrôle RGPD pour une pauvre asso, déjà, c'est quand même c'est plus sérieux que ce qui se passe aux impôts.
Enfin, alors, et rien à voir, mais quand même, en regardant l'actualité du week-end, je me suis fait la réflexion suivante. Fête du RN à Mâcon, 5000 participants. Fête des toffeurs, comme on dit, 20 000 participants dans le Cher. Ça va être difficile en 2027, qu'en pensez-vous?
Eh ben, il faut que le RN se mette à distribuer de la coke, de l'ecstasy et
À Mâcon, la majorité, ils viennent pas de France. Ils viennent d'Italie,
oui,
ils viennent
de Belgique, etc. Partout, ouais. Voilà. Allez, il faut qu'on passe au rapport à l'oncle, parce que quand même, si on sauve un sujet, ça doit être celui-ci.
Donc, qui a été fait par une IA ou pas?
Non, ben c'est vous qui deviez le faire.
Fais pas le dire.
Ah bon?
non mais il sort demain.
Ah bon? Ah, je croyais que c'était aujourd'hui.
Non, il sort demain finalement. Bon. Il sort demain matin. Ils ont changé de plan tout le temps.
Bon, donc est-ce qu'on a quand même quelque chose à dire sur ce rapport qui n'est pas encore sorti?
Alors,
parce qu'il y a quand même au moins 10 mesures que j'ai
même
vu passer.
Plus. Non, il y a plus que ça. J'essaie de retrouver tout ça. Il y a beaucoup de choses qui sont sorties. Alors, bon, il a repris son truc de départ. C'est à quoi sert la commission d'enquête? Elle pose deux questions. C'est est-ce que l'audiovisuel public fait bon usage des moyens qui lui sont alloués? Et deuxième question, est-ce qu'elle est au service du public? Réponse, non et non. Donc, Alta, il déroule ensuite. Donc, il y a plusieurs choses. Première chose, c'est le budget, évidemment. Donc, c'est 4 milliards, la moitié ou un peu moins de la moitié, c'est France Télévisions, qui représente déjà la moitié du ministère de la Culture. Donc, ce qu'il veut faire, c'est diviser drastiquement le budget, notamment de France TV, et avec l'argent réparti, il gagne un milliard deux, une partie qui va pour le désendettement de l'État, bon, ça ne fera pas grand-chose, mais toujours ça de prix, et une partie qui ira au patrimoine. Parce que le patrimoine, en termes de budget qui est rattaché au ministère de la Culture, le budget, c'est pas grand-chose. Ensuite, il veut enlever l'audiovisuel public du ministère de la Culture. Il veut créer un secrétaire d'État qui soit rattaché directement au Premier ministre et que ça soit uniquement ça, eux qui gèrent, ce secrétaire d'État qui gère l'audiovisuel public. Il veut revenir également la nomination. Bah, je pense moins que les sous-ministres qu'il y a déjà au ministère de la Culture. C'est quand même, même si c'est un budget qui n'est pas énorme, il y a quand même beaucoup de gens qui sont payés à rien foutre là-dedans. Donc si on crée un truc dédié juste pour ça, ça sera pas mal. Il veut évidemment, toujours l'objectif, toujours le budget, donc expliquer, on va réunir des chaînes parce qu'il y en a trop, donc par exemple il veut faire fusionner France 2 et France 5.
La moitié des chaînes à peu près, je crois.
Donc en fusion France 2, France 5, il veut supprimer France 4, en tout cas France 4 qui était une création de la TNT, on la dégage. Il veut rassembler l'INA et la BNF. En gros, il veut essayer de faire des économies d'échelle et en disant, on n'a pas assez d'argent, il y a trop de chaînes et on va essayer de rassembler tout ça et optimiser ce qui marche. Ensuite, concernant la création des contenus, vous savez qu'il y a 9000 salariés dans la maison. On ne sait pas trop à quoi ils servent, mais ils sont surtout très très bien payés. Et pourtant, dans toute la production de contenu, on externalise une énorme partie qui se chiffre à 1 milliard par an à peu près. Donc, c'est-à-dire qu'on a 9000 salariés qui ne sont payés à rien foutre et on a fait appel à des boîtes privées. Bizarrement, il n'y en a pas 40, ils se refilent tous le bébé entre eux, qui créent les contenus. Et comme on est sur le marché de création, ça ne rentre pas dans les règles classiques du marché public. Et donc, évidemment, vous imaginez, derrière, ça fait du copinage, ça fait des suspicions de conflit d'intérêts, tout ça. Et donc, il veut résoudre le problème en disant, on va essayer d'internaliser un peu plus. Et surtout, on va mettre des règles et des garde-fous pour éviter que ce soit toujours les mêmes qui récupèrent le magot et que ça se fasse dans une espèce
opacité.
D'obscurité volontaire et un système opaque qui est créé de toutes pièces. Donc voilà concernant les grandes idées sur le.
Il veut aussi diversifier l'origine des éditorialistes.
Alors ça c'est là je suis parti sur la partie budget.
Sur les économies.
Toujours sur les économies. Ensuite il veut faire des économies dans le sport. Alors ça me dérange un peu plus, mais bon.
Et
alors,
les loisirs,
dans la diffusion du sport. Le sport, pour le coup, c'est vraiment peut-être le truc qui rassemble le plus de gens et qui est le plus apolitique. Mais disons qu'il veut sanctuariser quand même Roland-Garros.
Ah, ça serait
le
bien.
Tour de France et le tournoi à destination. Roland-Garros, je rappelle, qui en partie avait été vendu à Amazon Prime. Et depuis que c'était en partie vendu à Amazon Prime, plus personne ne regarde Roland-Garros. Donc, ça revient dans la maison mère, c'est très bien. Moi, je rajouterais quand même 2-3 trucs, comme la Coupe de France de foot, tout ça, même si je sais que vous n'aimez pas trop le ballon rond. Je pense qu'il y a quand même des institutions qui devraient rester publiques, parce que depuis que c'est les marchés qui ont tout récupéré, le privé qui a tout récupéré, c'est très compliqué, ça coûte très cher de regarder du sport à la télé.
Ah, ça,
pourtant, le sport, c'est quand même c'est un rassembleur. On chiote les Anglais quand on fait le crunch, et puis aux Italiens quand on fait un match de foot. Donc, c'est quand même pas mal. Total. Mais surtout que xénophobe.
Merci de maîtriser.
Donc ensuite, il a regardé les problèmes qu'il y avait concernant le pluralisme qui, évidemment, est porté disparu. Donc première chose, il dit, il y a un comité d'éthique, c'est bien, on a découvert qu'il y en avait un, mais comme il sert à rien, il faudrait peut-être en faire un bon. Il prenait l'exemple, vous savez, de la fameuse vidéo Le Grand Cohen, commission d'éthique a été appelée à la rescousse, et puis ils ont tranché en 2 secondes sans avoir demandé.
Voyez comme il lance ça modestement et l'air de rien.
Non, mais c'est parce que c'est ce qu'il dit dans le rapport.
Ah, c'est bien.
Je lis le rapport.
Précisons à Radio Courtoisie, c'est quand même l'incorrect qui a sorti cette vidéo scandaleuse.
Tout le monde le sait, je n'ai pas besoin de répéter. Enfin. Et donc, Madame Albanel, patronne du comité d'éthique, est saisie par la demande des patrons de Radio France et de France Télé pour statuer sur le truc. En gros, elle dit, peut-être qu'il y a quelque chose. Mais finalement, il n'y a rien. Au bout de 2 jours, c'était réglé, sachant qu'elle n'avait pas demandé les rushs, elle n'avait pas demandé le constat. Bref, elle n'a pas fait de l'enquête et puis elle a été pressée par le temps. Donc là, elle leur demande de faire un vrai comité d'éthique pour vraiment surveiller, parce qu'il ne faut pas déconner. Le truc qui est intéressant, en effet, c'est sur les éditorialistes. Parce que il lâchait pas à personne qu'on est dans un pays qui est des bas-plus et pourtant des vrais sujets au-delà de la CSG, quoi. Des questions civilisationnelles existentielles se posent, donc forcément ça demande des vrais débats, et puis comme il paraît qu'on est en démocratie, autant qu'il y ait du débat, sauf que ça se fait pas, chacun est dans sa chaîne et s'envoie des missiles, des ogives, pas chaîne interposée, donc l'audiovisuel public sera l'agora idéale pour ça. Le reste, le problème des éditorialistes, dont beaucoup sont salariés de la maison, dont Patrick Cohen qui en fait quelques-uns, mais comme Patrick Cohen l'a rappelé au Figaro, je suis un faux éditorialiste, moi je rappelle que les faits quand d'autres font de l'opinion, donc le type c'est même pas qu'il fait de l'opinion, ou en tout cas qu'il a un biais subjectif, et donc à Long dit, en fait ce qu'on va faire c'est qu'il y aura un journaliste, et puis les éditorialistes vont venir de différents médias, parce que à part Le Monde qui se refuse de dire de gauche, tout le monde accepte globalement le positionnement politique, quoi. Marianne, on sait où ils sont, Le Figaro aussi, Radio Courtoisie aussi, Libé aussi. Donc, ça sera plus facile à calculer plutôt que de ficher les salariés journalistes ou éditorialistes de France TV en demandant pour qui ils votent. Donc, voilà un peu les grandes idées qui sont sorties, qui ont fuité, parce que le rapport sort que demain. Évidemment, ils suppriment aussi, vous savez, la plateforme Slash TV qui était destinée aux 12-25 ans. En gros, au moins de 18 ans, globalement, où on apprenait que le cannabis pouvait être thérapeutique, que même si on le développait et qu'on le légalisait, ça pouvait devenir une économie intéressante, qu'il fallait pas dire bonjour monsieur, bonjour madame, parce que c'était, ça m'est genré, qu'on faisait le portrait de madame Vanessa, qui était OnlyFans, c'est-à-dire une tapin sur Internet, parce qu'elle gagnait 30 000 euros par mois. Voilà ce qu'on trouvait sur la plateforme de TV, de France TV, destinée à la jeunesse. Bon, bah, ils suppriment ça. Quoi, ils demandent à supprimer ça, parce que c'est une perfusion idéologique et progressiste assez effrayante. Et puis après, bon, essayer de faire des économies de coûts sur, bah, on va diviser par deux les frais pour aller au Festival de Cannes, on va enlever les 52 ou 70 voitures de fonction qui servent on ne sait pas trop à quoi, tous les directeurs qui ont des postes un peu honorifiques mais avec des, pour ce coup, des salaires qui ne le sont pas, qui sont des vrais salaires, bah, on va peut-être faire des économies là-dessus aussi. Donc voilà, il y a le budget, il y a le contenu, puis il y a la création de contenu, donc ça fout un beau bordel, c'est vrai. Je pense qu'il y aura vraiment
un avant.
Est-ce
qu'on a des chances que ce soit suivi? Parce que c'est ça la vraie question.
Ah bah, pour que ça soit suivi, il faut que le Parlement vote.
Ah non, le Parlement n'a pas besoin de voter.
Non mais, pour qu'il y ait des changements, il faut changer les règles.
Non mais Jérémy Patrilétus, le président de la Commission, pourrait déjà déclencher un certain nombre d'enquêtes, faire un certain nombre de signalements à la justice.
Alors, il va y avoir des articles 40, parce que Charles Long va en faire une à l'appel, là. Mm-hmm. Donc ça, ça va être assez amusant.
Donc les articles 40,
c'est en gros le
signalement
au procureur, au parquet directement, d'infraction.
Qui oblige quelqu'un qui oblige sait qu'une infraction exactement. A été commise à le signaler au parquet.
Et le parquet, après, est obligé d'enquêter un peu. Il va en faire beaucoup, notamment concernant Delphine Arnaud, qui est la patronne de France TV. Et puis je pense qu'il va en faire d'autres, parce qu'il y a, je crois qu'il y a pas mal de gens qui ont dit des choses pas vraies sous serment, et ça a été prouvé ensuite, ce qui est un peu embêtant. En c'est République, gênant. Bien que j'ai toujours pas compris sur quoi on votait, vu qu'il n'y a plus de Bible, mais bon. Sinon, en l'état, on a un rapport qui a été voté par la commission d'enquête parlementaire, donc par le Parlement. Normalement, il devrait se passer des choses. Mais si le politique ne s'en saisit pas, il ne se passera pas grand-chose. Voilà. Alors par contre, il y a un truc que je n'ai pas compris, et alors ça me m'étonne. Non, genre, je me tire une balle dans le pied, ou je veux éliminer quelqu'un qui monte un peu trop vite. C'est peut-être les seules explications que j'ai. C'est le jour où le rapport est voté, ou le lendemain, Jordan Bardella annonce à la télé qu'il veut supprimer l'audiovisuel public. Privatiser l'audiovisuel public.
Oui.
Donc en fait, on a une commission d'enquête parlementaire, donc qui mobilise des députés, donc des moyens, qui font une enquête sur la commission. De là sort un rapport qui est voté majoritairement, qui explique voilà ce qu'il faut pour qu'on réforme. Et là, vous avez un candidat présidentiel qui dit en fait, tout ce que vous avez fait, ça sert à rien, moi je veux privatiser.
Il a peut-être mis dans une IA, il s'est dit il n'y a rien à faire, il faut tout supprimer.
Non, mais combien même faudrait le faire ou il faut le faire, on ne le dit pas. J'ai pas compris le principe.
Soit
c'est une énorme connerie stratégique, soit s'il voulait flinguer l'UDR qui monte un peu trop, il ne pouvait pas mieux s'y prendre.
C'est fourbe, mais c'est peut-être vrai. Nos deux amis dans la lucarne. Le Muppet Show de Radio Courtoisie.
que fait l'ARCOM? On attend de voir, mais je suis assez d'accord de sauter sur la balle au bon comme ça en disant on va privatiser l'audiovisuel public, alors que ce n'est pas du tout l'objet du rapport d'ailleurs. C'est plutôt l'objet de faire des économies et d'avoir un audiovisuel public qui est vraiment au service du public et pas au service d'une caste. À peine sorti, vous avez vu les attaques continuent sur Charles Alloncle, avec
avec Patrilétus, juste. Ah non, c'est l'association AC, donc anticorruption, qui porte plainte contre Alloncle.
Non, contre X.
Contre X. Ah pardon, contre X.
Ah oui, carrément, ouais.
Mais ouais. Avec Alloncle visé quand même pour des.
C'est un truc qui a aucun sens parce que c'est en gros pour ils suspectent des députés de recevoir des mails de gens qui
font c'est un peu du trafic d'influence.
Ça s'appelle du lobbying en fait. Les députés reçoivent des mails toute la journée comme ça. Dès qu'il y a un sujet, du lobbying.
C'est ça qui est génial. Le fait que France Télévisions et elles-mêmes envoyaient des éléments de langage à ceux qui étaient auditionnés, là en revanche, ça n'a rien à voir.
Une structure pour faire du média training et créer des éléments de langage. C'est ça qui est fou, quoi.
Non, mais c'est.
Xavier Onlyrd. Ah non, vous n'avez pas fini, Alexis?
La levée de bouclier qu'il y a eu sur ce rapport montre quand même que c'était un rapport plus qu'utile, et j'espère qu'il sera suivi des faits et qu'on va aller creuser encore un peu plus loin, parce que là, on voit très bien qu'il y a quand même une crispation autour de ces milliards qui s'évaporent dans l'audiovisuel public, entre guillemets.
Oui, ça ne touche pas au Grisby, là, effectivement.
Et, à Ah non, mais j'ai jamais vu ça. C'était une réaction mafieuse, ouais, c'est ça, un peu.
Mais vous avez vu les... C'est un truc qui est très amusant, c'est que là, ils ont annoncé la création d'une émission, L'Heure de Vérité, où le... Bref, une ancienne émission qui revient. Ils annoncent que Jeannie Bastier, donc notre consoeur du Figaro, et qui officie de temps en temps sur CNews, est dedans. Et là, vous avez vu le lever de bouclier de gens qui disent « Non, il faut surtout pas, c'est l'extrême droite !» Je veux dire, ces gens pensent qu'en fait, que l'audiovisuel public leur appartient. Ouais. C'est fascinant, ouais. Ils se cachent même plus, quoi. Ouais. Mais je pense qu'ils pensent même pas qu'ils sont... idéologisés. Je pense qu'ils pensent sincèrement, à force de vivre, de patauger dans le même marécage, qu'en fait, le conformisme est malgré eux. Quoi. C'est, il n'existe pas. Tout le monde doit penser comme ça.
Oui, oui, je pense, oui. C'est, Xavier. Ah, c'est...
Ben, je voulais juste te dire que donc, le rapport à Lonk n'est pas encore paru, mais qu'il y a déjà le rapport de contre-enquête sur l'audiovisuel public. Tout ce que le rapport à l'oncle passe volontairement sous silence, qui est paru et qui a été édité par la SCAM, établi par les auteurs et autrices du réel.
On se croirait dans OSS 117 avec la SCAM.
Et donc, il y a 130 pages, hyper sourcées. Ils ont écouté tous les débats et ils viennent de publier un PDF énorme, donc la SCAM, donc des documentaristes, pardon, entre autres, stupéfaits par les méthodes du rapporteur Charles Lonk, des auteurs et autrices du réel, ont donc décidé de faire leur métier, documenter le réel, vérifier les sources, contextualiser le débat. Ce rapport de la SCAM est mis à la disposition du public, des parlementaires et des médias. Et donc, le contre-rapport paraît avant le rapport avant lui-même le rapport. Et se termine par une profession de foi démocratique absolument admirable qu'il faut que vous lisiez. Les 4 milliards d'euros annuels du service public ne sont pas une dépense, ils sont un investissement de souveraineté. Ils garantissent à 68 millions de Français, donc bébés compris, un espace audiovisuel commun, indépendant, culturellement riche, démocratiquement contrôlé. Démocratiquement contrôlé. Les réduire, ces 4 milliards, c'est diminuer la République elle-même.
Ah oui, tu sens ce qui touche là.
Pardon. Voilà, 130 pages pour dire « touchez pas à ce qu'on nous envoie ouais. ».
Xavier Van Lier, d'un mot sur toute cette mascarade.
Bah je me suis soudain... Bah, donc ce qui m'amuse beaucoup, c'est de voir la gauche et le PS s'ériger en défenseurs de l'audiovisuel public, qui serait une sorte de temple de l'objectivité, de la pureté, de l'équité et autres. Mais en soi, si vous voulez, comme si le privé, par nature, était négatif. Et puis, bon, il se trouve que j'ai un certain âge, et donc je me souviens des années 80. Je me souviens que dans les années 80, qui a ouvert l'audiovisuel au privé, aux forces d'argent et autres ? Eh ben, c'est Mitterrand, c'est Jack Lang. Sauf qu'à ce moment-là, c'était vu pour le PS comme une opportunité de secouer le monopole et de placer ses propres gens. C'était l'époque de la grande époque de Canal+, vous savez.
Ah oui.
Vraiment l'audiovisuel public. Canal+,
de Jean-Luc Delarue, d'Arthur, de Chavannes, qui faisait d'ailleurs l'objet de sketchs parfois très drôles d'ailleurs au Guignol de l'info.
Et Nagui.
Et Nagui
qui est encore là lui.
Oui, c'est le dernier, oui, le dernier des Mohicans.
Voilà. Et donc j'y vois simplement la preuve qu'en réalité, ces gens-là veulent juste maintenir leur emprise. C'est-à-dire que maintenant, ils ont l'emprise sur l'audiovisuel public, ils veulent la garder. Alexis parlait de la caste, c'est bien de ça dont il s'agit. Je pense que ce qu'on ne pardonne pas à Charles Lalonde, c'est de s'en être pris à l'un des instruments de l'État profond. L'État profond, je pense qu'on l'a compris, en France, c'est l'autre nom du Parti Socialiste, qui squatte à la fois le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel, la Cour des comptes, l'ensemble des structures qui perdurent, quelles que soient les élections. Et dans ce cadre-là, je pense qu'il considérait que l'audiovisuel public devait aussi être quelque chose qui perdure en l'État, avec les gens qu'ils y ont placés. Ça va pas forcément se passer comme ça, en tout cas pour l'audiovisuel public, espérons-le.
Espérons-le, oui, parce que ce n'est pas effectivement qu'un fromage, c'est aussi un outil d'influence extrêmement important.
Et ce qu'on a vu, c'est l'emprise. Oui. L'emprise.
Voilà. Oui, il y a une mainmise absolue. Alors, cela dit, ça se termine. Notre émission se termine également. Il nous reste, je crois, moins d'une minute, à peu près une minute, une grosse minute. Oui, tiens, on va lire peut-être un ou deux messages d'auditeurs pendant qu'il nous reste quelques secondes. On a une auditrice, je crois, qui nous dit « Le rapport à l'oncle ne devrait pas être le seul à mettre à jour des scandales cachés de la République. Par exemple, comment le billet de voyage de 150 km en autocar en France, géré par une société privée, peut-il descendre à 5 euros, soit celui d'un aller-retour dans le métro de Paris, avec toutes les contraintes et normes qui s'imposent à ses exploitants ?» Bah, vous savez, c'est un vrai sujet, oui. La même remarque s'impose sur les prix des abonnements de téléphone, avec en plus dans les deux cas des qualités de service supérieures à ceux que nous connaissons en France. Là, il parle d'une comparaison avec l'Ukraine. Combien d'assiettes au beurre dans la France au ciel? Ben écoutez, ça sera peut-être Charles Alloncle qui nous le dira, parce qu'il a, à mon avis, encore un paquet de commissions parlementaires à lancer. Nous, on va s'intéresser à un gros sujet qui sera le rôle des associations de gauche et leur manière de recevoir des subventions et de défiscaliser, puisqu'après tout, Libération le reproche à des associations comme Némésis ou même à Radio Courtoisie d'ailleurs. Donc, on va leur renvoyer la monnaie de leur pièce. Sur ce, notre émission se termine. Merci Richard Decaize, Alexis Poulain, Xavier Van Lierd, merci Arthur de Vatrigan et Virginie aux commandes. Et rendez-vous demain avec... Ah bah d'ailleurs, rendez-vous dans 5 minutes avec Richard Decaize. Et demain, pour un Restons Courtois avec lui également. Mercredi, avec Arthur de Vatrigan et avec votre serviteur lundi prochain. À bientôt.
Ça suffit maintenant.